Avec votre DJ à la saison.
Bonjour, il paraît, mesdames et messieurs, qu'il n'y aura plus de show en l'an 2000.
Le 5 juin 1983, Yannick Noah remporte le tournoi de Roland-Garros.
Commençons ce journal avec la mort de Louis de Funès. L'acteur est mort la nuit dernière à l'époque.
Michel Platini en est à son 35e but en équipe de France.
4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+.
Jusqu'où ira Madame Thatcher? Qu'est-ce qui pourra bien arrêter son triomphe insolent?
10 000 personnes intoxiquées à Bhopal, dans le centre de l'Inde.
J'ai voté Mitterrand sans regret, sincèrement.
Et tu danses avec lui.
Pénétrer dans cet univers musical.
Attention, 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 c'est à vous, super.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec Renaud Lambert. Année 80, retour en arrière.
Flight number 2, arriving from.
Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur.
C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez.
De Lénine à Lennon, de Staline à Stallone et de Sartre à Rothschild, le chemin est passé par les années 80, les années du grand retour en arrière. De la détestation des puissants à la passion du pouvoir, de la critique radicale à l'éloge du fait accompli, du conflit fou au consensus mou, nous partons pour une petite excursion dans les années 80 avec François Cusset, auteur de la décennie Le cauchemar des années 80, Frédéric Lordon, auteur de La vérité sauvera le monde, et Serge Halimi, auteur de Quand la gauche essayait et de Le grand bon en arrière, parce qu'on a tous encore quelque chose en nous. Des années 80 jusqu'à 16h sur France Inter. Là-bas, si j'y suis.
Da, da, da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb
Alors, François Cusset, Frédéric Lordon, Serge Halimi. On continue avec ces années catastrophiques et calamiteuses qu'ont été les années 80. C'est au moins le point de vue de François Cusset. Avant de commencer, est-ce que c'est le vôtre finalement? Est-ce que ces années ont été les plus calamiteuses?
Calamiteuses, ça elles le sont assurément, puisque finalement c'est elles qui ont mis en branle le grand processus dans lequel on est encore. Et visiblement pas près d'en être sorti.
Frédéric Lordon.
Ce qui est très étonnant, c'est que comme cette logique du néolibéralisme est en cours d'approfondissement constant, ça nous conduit très rapidement à avoir des regards rétrospectifs émus du passé. Ah, mais à la fin des années 80 quand même, qu'est-ce que nous étions heureux? Mais il faut se souvenir que dès la fin des années 80, c'était le chômage de masse, la rigueur dans les entreprises, les plans de licenciement, etc. etc. Ce qui signifie que plus ça va, pire c'est.
Il faut bien reconnaître qu'en l'espace d'un peu plus de 3 ans, l'Amérique s'est découvert un président. Un Ronald Reagan qui patiemment a balayé toutes les critiques de ses adversaires.
Tonight, we can report and be proud of one of the best recoveries in decades.
Ce soir, on peut faire état et être fier de l'une des plus brillantes reprises depuis des années. En moins de 3 ans, une inflation ramenée à moins de 4%. Elle était en 80 à plus de 12%.
And our record is clear. Americans resort to force only
et notre bilan est clair. Les Américains n'ont eu recours à la force que lorsque c'était nécessaire. Jamais nous n'avons agressé. Toujours nous avons lutté pour défendre la paix et la démocratie. Une Amérique forte. Jamais le budget de la défense n'a atteint de tels sommets pour obtenir, selon Ronald Reagan, que l'on discute d'égal à égal avec les Soviétiques.
America is back, standing tall.
L'Amérique est de retour, fière, regardant les années 80 avec courage, confiance et espoir.
America is back,
standing tall.
L'Amérique est de retour, fière, regardant les années 80 avec courage, confiance et espoir.
Voilà, America is back, c'est le 29 janvier 1984. Antenne 2, Reagan est candidat.
Oui, alors il est candidat, il sera réélu très largement avec 59% des voix en novembre 84.
Serge Halimi.
Naturellement, dans le bilan qu'il a dressé de son premier mandat, il y a un certain nombre d'éléments manquants, notamment le fait que le déficit commercial a été multiplié par 3 ou par 4, un peu comme le déficit budgétaire, et que le nombre de pauvres a explosé. Mais il y a une chose qui est peut-être plus intéressante pour nous ici, c'est que 1984, ça a été aussi... et presque autant l'année du Reaganisme en France. Le 28 novembre 1984, donc 3 semaines après sa réélection, j'ai retrouvé un article paru dans le Wall Street Journal qui était titré « La France vire à droite, vive Reagan ». Le Wall Street Journal est donc le journal des milieux d'affaires et un journal très marqué à droite, côté républicain, côté Reagan. Et la correspondante du journal écrit « Sur les Champs-Élysées, sur les grands boulevards, sur la rive gauche, aux Halles et à Beaubourg, dans les cafés de quartier, dans les restaurants élégants, dans le métro, dans une boulangère plébéienne du 13e arrondissement, cela ne s'arrêtait pas. Le plus souvent, surtout si c'était à l'intérieur d'un établissement, le Français libérait sa conscience en me détaillant la chance que nous avions, nous les Américains, d'avoir Reagan pour président et la chance pour le monde d'avoir le président Reagan. Alors que, hélas, allait devoir subir 3 ans de plus François Mitterrand. Je commençais à imaginer ce que les soldats américains avaient dû éprouver quand on les acclama à l'époque de la libération de la France. Fin de citation donc du Wall Street Journal. Et c'est assez dire que la popularité des États-Unis et de Reagan était très forte en France, y compris dans certains milieux intellectuels, qu'on se souvienne Guy Sorment, Bernard-Henri Lévy, Georges Suffer, qui parfois publièrent des ouvrages pour certains d'entre eux, comme ceux de Sorment à la gloire du modèle libéral, à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Mmh.
C'est d'autant plus vrai. Alors, le lyrisme du Wall Street Journal, effectivement, nous rappelle que voilà, l'Amérique est enfin bien accueillie en France. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de basculer d'époque. La géopolitique vue depuis l'Hexagone s'inverse à ce moment-là. La 84 est d'ailleurs, à mon avis, l'année la plus américanophile peut-être du siècle en France. Donc l'Amérique, grand méchant capitaliste, grand Satan impérialiste, en pleine époque, qu'elle soit marxiste ou gaullienne d'ailleurs, devient cette fois-ci le modèle à suivre absolument, et dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on a effectivement des intellectuels qui applaudissent l'armement par la CIA des contrats fascistes au Nicaragua. On a évidemment les libéraux, les idéologues libéraux qui font de la Californie l'Eldorado absolu. Je crois que 84, si je ne me trompe pas, c'est la création en France, qui est un magazine d'un genre nouveau. C'est plus l'économie à la papa, c'est l'économie avec des vrais portraits de jeunes entrepreneurs en jean. Enfin, c'est le début. 84, c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles, énormes, surdimensionnés, d'une taille record, qui sont l'occasion là aussi de faire l'éloge de l'Amérique. Et finalement, Reagan est le portrait intellectuel même de gauche en France. C'est le portrait d'un homme simple qui est enfin un homme politique méritant ses responsabilités, selon une logique qui est finalement la même qui justifie d'inviter Bernard Tapie sur des plateaux de télévision en France.
À travers tout votre bouquin, François Cusset, vous essayez de nous raconter, vous y arrivez d'ailleurs pas mal, à trouver toutes les idées, enfin à essayer de mettre en lumière tout ce qui fait notre aujourd'hui.
Alors, sur le cas précis de l'Amérique, je pense que ça a changé. Là, en 20 ans, ça a vraiment changé. Ce qui s'est passé depuis, c'est que l'ennemi idéologique, imaginaire, enfin, qu'on appelle communisme ou autre chose, à cause duquel on choisissait l'Amérique, a évidemment disparu, en tout cas, de la politique officielle mondiale. Donc, ça change un peu la donne. Et puis, en plus, l'Amérique est devenue un contre-modèle à d'autres niveaux quelques années plus tard, à partir des années 90, à cause de ce qu'on appelle le communautarisme, le politiquement correct, le multiculturalisme. Donc, l'Amérique comme une sorte de contre-modèle social face à la République française unie. Donc la France, 10 ans plus tard, va effectivement rentrer dans une période nettement moins américanophile, d'où d'ailleurs les débats actuels. C'est-à-dire, on voit bien entre intellectuels ou éditorialistes sur le thème, vous choisissez soit le Grand Sud, le tiers-monde dans sa diversité, soit l'Amérique comme une sorte de nation, comme certains intellectuels notoires français le disent. Mais ça fait débat. Voilà. Il n'y a plus ce consensus américanophile délirant de 84.
C'est tout.
Alors, on va prendre une date à laquelle vous tenez, 1984. C'est le sommet de Fontainebleau et 25 juin 1984, on en cause pendant 1 minute 21 secondes.
Les 10 Européens se retrouvent une nouvelle fois autour d'un tapis vert, mais cette fois, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Fontainebleau sont condamnés à trouver un accord. La disparition de Michel Foucault, philosophe et historien, il était l'un des maîtres de la pensée française. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'histoire de la construction européenne semble à ce point faite de répétition que l'on ne sait plus guère quelle importance donner aux innombrables sommets qui l'ont ponctuée. Nous retrouvons sur place Philippe Sassy.
L'Europe, qui fête ses 25 ans, arrive à un tournant de son histoire où la menace un énorme fossé, le déficit financier. Commence alors une partie de bras de fer entre ceux qui veulent dépenser moins et ceux qui réclament qu'on cotise plus. En fait, il s'agit moins d'une histoire de gros sous que de conceptions différentes de l'Europe, de ses mécanismes, de son financement. Le chancelier allemand et le président français veulent redonner un souffle politique à l'Europe. Mais à Fontainebleau, comme à Bruxelles ou à Athènes hier, ils entendront une voix féminine et familière leur murmurer « I want my money back, rendez-moi mon argent ».
Alors, Frédéric Lordon, pourquoi nous faire écouter ce document et pourquoi cette date est-elle si importante ?
Tout le monde se souvient de ce sommet par « I want my money back » et la négociation de marchand de tapis par laquelle Margaret Thatcher obtient le rabais financier qui va défrayer la chronique jusque dans les négociations budgétaires de l'Union européenne en 2005 et sans doute encore pour un moment. Non, de mon point de vue, il y a de tout autre raison qui justifie de se souvenir du sommet européen de Fontainebleau que je ne peux pas m'empêcher de considérer comme une date absolument cruciale, parce qu'elle est véritablement une bascule dans le cours de la construction européenne. Alors il faut se remettre dans l'esprit de l'époque, hein. On parlait à ce moment-là déjà d'eurosclérose. Alors, de ce point de vue, le sommet de Fontainebleau, c'est le sommet de la relance. Mais c'est une relance d'un genre un peu particulier tout de même. Pourquoi ? Parce que, en fait, de relance, il s'agit, par le sommet de Fontainebleau, de faire entrer dans le réel une construction européenne qui est largement encore à l'état d'encre et de papier. Alors, là, j'ai vraiment une anecdote que je trouve absolument succulente, dont je ne peux malheureusement pas révéler l'identité du héros, et c'est dommage parce que ça ajoute à son charme. Ça se passe dans les années 70. C'est un jeune inspecteur des finances, plein d'avenir. Oh là là, ça, je te garantis, plein d'avenir. Et il s'occupe d'un dossier de restructuration industrielle. Alors, comme on fait à l'époque, l'État a remis au pot. Seulement voilà, à Bruxelles, à la Commission, il y a des gens encore un peu timides, mais qui veillent et qui savent qu'un financement public, ça s'appelle une aide d'État, et c'est interdit par le traité de Rome. Alors, le fonctionnaire de Bruxelles envoie une petite lettre à notre inspecteur des finances. Il est assez perturbé tout de même, parce qu'on est en train de lui dire que ce qu'il fait depuis des plombes, c'est tout à fait contraire au droit des traités européens. Alors il va s'en ouvrir auprès de son directeur, le directeur du Trésor, qui est M. Jean-Yves Abrère, c'est pas n'importe qui tout de même. Et il lui tend la lettre qui vient de Bruxelles. Alors Jean-Yves Abrère réajuste ses lunettes sur le bout de son nez, il regarde le papier d'un peu loin, et puis il dit « Je crois que je sais comment nous allons régler ce problème de la manière suivante », et hop, il met la lettre au panier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tout de même ? Je veux dire, ça veut dire que s'il y avait eu pénurie de papier toilette au ministère de l'économie, eh bien, le courrier de la Commission aurait certainement fait la pointe. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ces années-là, fin des années 60, début des années 80 ? Je veux dire, on est confronté à une énigme et à sa solution. L'énigme, c'est quoi ? L'énigme, c'est qu'il y a une hiérarchie des normes juridiques. Dans la hiérarchie des normes juridiques, les directives sont dominées par des décrets, qui sont dominées par les lois, qui sont dominées par les lois organiques, qui sont dominées par les constitutions, qui sont dominées, c'est le haut de la pyramide, par les traités internationaux. Par conséquent, les traités internationaux sont des normes juridiques supérieures à toutes les autres et en particulier aux normes juridiques nationales. Le droit des traités s'applique aux droits nationaux. Mais Macache, pendant quasiment 30 ans, le droit européen est resté absolument lettre morte. Tellement simple, pour tous ceux en tout cas qui ne croient pas qu'il y a une force intrinsèque du droit, c'est-à-dire des traces d'encre sur du papier. Pour que le droit rentre dans les faits, il lui faut un surcroît de force politique, de force institutionnelle. Ce surcroît de force qu'on va commencer à lui donner à partir de 1984. Parce qu'en 1984, l'engagement que prennent les gouvernements nationaux, c'est de, pour de bon, soumettre leur souveraineté à une souveraineté supérieure, qui sera celle des institutions européennes. Et ça, c'est une sacrée bascule.
Enjoy this trip.
dangerous trip. And it is a trip.
Countdown is progressing.
Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, mercredi 16 avril 1980, voici le journal. Alain Bédoué, bonjour.
Bonjour.
1980, Ronald Reagan élu, John Lennon assassiné.
Mobile du crime, un autographe refusé.
Jean-Paul Sartre meurt le 16 avril 80.
Jean-Paul Sartre est mort hier soir à Paris. L'écrivain philosophe a succombé à un œdème du poumon.
Gérard Dabeauville traverse l'Atlantique à la rame.
Bonsoir les enculés du pouvoir socialiste.
Année 80. Les radios sont libres.
Alors c'est bien Carbone 14, c'est reparti.
Alors on a quand même dans le cul, hein.
Année 80, alerte au sida.
Une mystérieuse maladie qui a fait son apparition il y a environ 2 ans aux États-Unis.
Et toujours, URSS.
Le russe pilote américain.
Année 80, victoire de Ronald Reagan.
America is back.
Pyramide du Louvre, action directe. Nouvelle-Calédonie.
Ici, les comités de lutte sont particulièrement actifs. Barrage, harcèlement des forces de l'ordre et intimidation des broussards.
L'entreprise récupère les libertaires.
Alors, Serge Juli, qui a été votre patron à Libération, alors vous lui payez un sacré costume, hein, ça... Oh là 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 là.
Désamorcer toute révolte.
En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine.
Le tournant économique du septennat de François Mitterrand a déjà eu lieu avec la mise en œuvre de la politique de rigueur depuis juin 82. Pierre Mauroy a présenté hier soir au chef de l'État la démission de son gouvernement. Monsieur François Mitterrand a immédiatement désigné un nouveau Premier ministre.
Laurent Fabius est le surdoué de la classe et il vient de le prouver une fois de plus en devenant à 37 ans le plus jeune chef de gouvernement des trois dernières républiques. Le front dégarni et le sourcil en accent circonflexe, l'enfant prodige du socialisme incarne ce que l'on appelle la gauche américaine. Partisan d'une société d'économie mixte, compétitive, ouverte sur l'étranger, le maître mot pour lui, c'est modernisme.
La modernisation, nous la mènerons à bien parce que c'est la seule politique possible pour assurer l'avenir du pays.
Le 17 juillet 1984.
C'est assez amusant qu'on le qualifie de partisan de la gauche américaine dans la mesure où l'expression avait été inventée par Jean-Pierre Chevènement pour atteindre Michel Rocard.
Serge Halimi.
Et à l'époque, Laurent Fabius s'était opposé à Michel Rocard en lui disant, phrase célèbre, entre le marché et le plan, Michel Rocard, il y a le socialisme. Donc quelques années plus tard, on a comme partisan de la gauche américaine Laurent Fabius qui affiche une orientation libérale et modernisatrice, ce qui signifiera bien sûr le sacrifice des industries traditionnelles. On sait le prix que la Lorraine va payer. Et à l'époque, François Mitterrand recommandera à ses ministres d'être durs en termes de restructuration. Évidemment, quand Laurent Fabius devient Premier ministre, c'est un moment aussi important dans la mesure où cette fois, les communistes qui ne s'étaient pas opposés au virage de 1982-1983, qui avaient même voté la confiance au gouvernement en 1984 sur sa politique de modernisation industrielle, cette fois ne peuvent plus accepter de rester au gouvernement. Et il le quitte donc en juillet 1984.
François Cusset.
Bon, on ne s'étendra pas, ce serait vraiment faire du mauvais esprit sur la distance qui sépare ce Fabius-là du Fabius si convaincu par le non au référendum sur le traité constitutionnel européen. C'est une autre histoire. Mais ce qui est intéressant avec ce changement de gouvernement, le passage de Mauroy à Fabius, c'est évidemment pas seulement un changement de style et de look, le jeune intellectuel économiste surdiplômé et brillant. C'est aussi un véritable tournant idéologique, puisque le discours qui est chargé finalement de tenir Fabius, c'est effectivement le discours de la modernisation. Et je crois même que dans cette déclaration de politique générale, dès juillet, il va oser reprendre... pour l'entreprise, pour le discours de l'entreprise, la fameuse formule de Kennedy est dire « ne vous demandez pas ce que l'entreprise peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'entreprise ». C'est-à-dire un discours de la mobilisation quasi militaire, en gros en pleine crise, compte tenu du retard de la France, je serai le chef de gouvernement d'un pays mobilisé, comme en pleine union sacrée, pour l'innovation technique et la création d'entreprises.
Et là, c'est d'autant plus terrible qu'il ne reprend pas le discours de Kennedy, puisque Kennedy, c'est ce que vous pouvez faire pour votre pays. Oui. Là, maintenant, voilà. Il y a l'assimilation entre l'entreprise et le pays, et la nation.
Françaises, Français, cette année, c'était très bien. L'année prochaine, ça sera pire. Eh oui, mesdames, messieurs, le pays va mieux que l'année prochaine. Nous envisageons un redressement dans 5 ans. En effet, dans 5 ans, nous serons considérés comme un pays sous-développé auquel viendront en aide les pays industrialisés. Vous ne dites rien, tant mieux. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Et rappelez-vous que si la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, les politiciens d'aujourd'hui ont les moyens de vous faire taire. J'entends de droite et de gauche dire « La droite est nulle, la gauche est nulle, je vote nul. » Éloignez-vous du fatalisme. Réagissez, sachez prendre votre chance. Rappelez-vous que quand il pleut des roubles, les malchanceux n'ont pas de sac.
Maintenant, on continue toujours à travers nos archives et à travers le bouquin, le livre de François Cusset, la décennie, les années 80, et aussi à travers le bouquin de Serge Halimi sur le grand bond en arrière. Et là, vous allez être heureux puisque vous allez vous retrouver avec deux grands intellectuels. C'était le 3 août 1984.
Bon, alors maintenant, entrons un petit peu dans l'analyse de cette crise.
Jacques Attali. Oui, l'histoire montre que chaque crise doit être perçue comme le moment de la réécriture. Et que donc, pour les sociétés, le moment où elles se sentent en non-crise est, l'histoire le montre, en général beaucoup plus bref que le temps de la décadence auquel s'ajoute le temps de la renaissance.
Alain Minc, je crois que vous avez collaboré à cette émission qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelle « Vive la crise ».
Oui, et puis bon, j'étais un figurant d'Yves Montand.
Si oui. Diriez-vous toujours « Vive la crise » aujourd'hui ?
Oui, pour l'effet provocateur que cela a eu. Il me semble que la France, qui a mangé son pain blanc depuis 10 ans, et qui n'a pas commencé à payer son tribut à la crise, où le pouvoir d'achat s'est accru davantage, va avoir maintenant à solder les comptes.
Bon, venons-en maintenant à ce que vous appelez la dynamique de la crise. Elle est faite de quoi ? Et vous allez rejoindre
c'est-à-dire,
d'ailleurs Attali d'une certaine manière.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit une multiplicité d'initiatives, un changement du système de valeurs, et le tout au nom de valeurs qui sont exactement les valeurs de 68.
Alors, vous appelez ça le capitalisme 68 tard. Il faut dire que les deux mots à coller, ça surprend un peu. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est que ça, le capitalisme 68 tard ?
Outre le fait que c'est, à mon avis, la chance du capitalisme, je crois que l'initiative se fait au nom de valeurs d'autonomie et de liberté. Alors, ces deux valeurs d'autonomie et de liberté, mais c'est une sorte de résurrection bizarre de ce qu'on a vu en 68.
Voilà. Le capitalisme 68A, on l'a là dans ce document, deux phares de la pensée des années 80, mais qui nous est Alain Minc et Jacques Attali. Celui qui sourit, c'est François Cusset.
Oui, non, effectivement, je souris en hommage à ces deux phares, comme aurait dit le grand timonier. Non, mais c'est non seulement deux phares de la décennie, mais c'est en plus deux des... sur ce discours qui, à ce moment-là, dure déjà depuis plusieurs années, hein, le discours de la crise comme aubaine historique, occasion unique pour la France de rattraper tous ses retards et effectivement d'ébranler son vieux système de valeurs beaucoup trop conservateur. Et on est vraiment en train d'imposer par ces discours-là l'idée qu'il n'y a plus vraiment de polarité politique, que gauche et droite se valent, que ceux qui comptent, que la dernière polarité réelle, c'est les anciens et les modernes, les vieux schnocks réactionnaires, voilà, qui sont encore dans des logiques nationales, terriennes, et puis ceux qui sont modernes, innovants, et qui vont effectivement s'arc-bouter sur cette situation de crise pour faire de la France le modèle de demain. Alors, il y a quand même un génie de la formule chez Alain Minc, parce qu'effectivement, capitalisme 68 art, qu'il a quand même repris, il faut le dire, aux libéraux libertaires californiens, donc il s'est évidemment servi ailleurs. Mais c'est cette convergence des deux mots, effectivement, qui fait un peu oxymore quoi, à l'époque. Ça va être la grande idée, et de Minck et de ses camarades, à ce moment-là, et même de la décennie. Et cette idée-là, en fait, elle vient des sciences de l'information, elle vient des sciences cybernétiques américaines. Elle vient de l'idée que, finalement, en cas de problème majeur, en cas de dysfonctionnement du système, il y a un mécanisme adaptatif d'ajustement, ce qui fait qu'on traite, du coup, les gens, les humains, comme, effectivement, des dispositifs d'ajustement, qui font qu'on change de braquet, change de niveau, qu'on s'adapte à la nouvelle donne et qu'on est plus fort qu'avant. Cette logique-là, c'est l'idée d'Attali et de Minck qui font d'eux bah oui, les phares de l'année 84.
Ouais. Serge Halimi, sur ce syncrétisme libertaire, libéral.
François Cusset disait qu'Alain Minck s'était servi ailleurs. On a du mal à imaginer qu'Alain Minck ait commis un plagiat. Oh. Mais il a raison, dans la citation d'apostrophe, il s'agit d'habiller à gauche des valeurs de droite, de leur donner cette espèce de cachet de modernité, de dynamisme, qui serait en quelque sorte tiré de mai 68. Il faut aussi préciser que quand Alain Minck parle de la nécessité de faire des sacrifices, de tirer le meilleur parti de la crise, c'est une nécessité qui ne s'appliquera jamais à son propre cas. Comme en général, elle ne s'appliquera jamais aux professeurs de vertu qui, eux, verront leurs revenus exploser au moment même où ils prêchent les sacrifices aux autres. Et il y a un côté un peu bizarre et presque carrément désagréable à entendre ce pseudo-débat entre Alain Minck et Jacques Attali, qui sont au fond d'accord sur tout, qui quelques années plus tard fonderont l'un et l'autre leur boîte de conseils et qui viennent dire en quelque sorte aux mineurs, aux sidérurgistes et aux autres, allez, assez plaisanter, là maintenant, il est temps de faire des sacrifices.
Dans la même émission, le 3 août 1984, voici Jean Boissonnard, rédacteur en chef de l'Expansion.
Je crois qu'il se cherche en France d'étranges coalitions nouvelles sur le front politique, une coalition entre des libéraux, certes évolués, et ce que j'appellerais des autogestionnaires, c'est-à-dire une nouvelle droite, une nouvelle gauche, qui se demande si, parce qu'elles sont l'une et l'autre nouvelles, n'auraient pas quelque chose à faire ensemble. Et puis en face, un autre front, où là encore on retrouve des hommes de droite et des hommes de gauche, des nationalistes et des bureaucratiques, si j'ose dire, c'est-à-dire la vieille droite et la vieille gauche, et entre lesquels il y a également des éléments communs. Et je crois que ce qui est difficile dans un pays, c'est de faire accoucher en termes politiques des courants de pensée qui n'ont pas l'habitude d'être classés du même côté. Et de faire l'alliance entre une gauche et une droite qui serait moderne face à une gauche et une droite qui serait archaïque, c'est probablement ce qui rendrait le mieux compte des forces réelles, mais ce qui ne se coule pas dans les organismes politiques existants.
Voilà, Jean Boissonnard, vous avez écouté, il confirme ce que vos analyses.
Ce sera un peu le projet de la Fondation Saint-Simon, justement, de rassembler ces gens-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit aux catégories que vient d'élaborer Jean Boissonnat, la première catégorie, c'est une catégorie qui est presque exclusivement bourgeoise, et la seconde, c'est une catégorie qui est assez largement populaire.
Oui, effectivement. Ce type de raisonnement est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie, au moins, puisque l'idée, en fait, ce qui est dit, c'est que le seul critère permettant de départager les hommes politiques ou les décideurs, c'est la compétence, c'est l'expertise, c'est la modernité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de critères de contenu, il n'y a plus de critères idéologiques. L'idée du projet ne départage plus, puisqu'on est tous d'accord sur le projet. Il n'y en a pas d'autre possible que celui auquel nous force l'évolution économique mondiale. Donc, finalement, le dernier critère, il est technique. Il est les compétents contre les incompétents. Critère qui, encore une fois, est on ne peut moins démocratique.
Les déclarations explosives d'Yves Chalier, le principal accusé dans le scandale du Carrefour du Développement, il met en cause des responsables politiques de tous bords. La privatisation devant les députés, pas de surprise, 49-3 et motion de censure au menu de l'Assemblée nationale, le projet sera adopté la semaine prochaine. Hino remporte l'étape contre la montre, mais Greg LeMond bétonne son maillot jaune au terme de cette 20e étape. Et puis, ce jeudi 24 juillet, il y a maintenant 489 jours que sont détenus Marcel Carton et Marcel Fontaine, 428 jours que sont détenus Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 138 jours pour nos amis Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin,
et 78 jours pour Camille Sontag, il y a toujours cet otage français détenu au Liban.
Encore une fois, François Cusset, hein, votre regard, c'est quand même sur la vie des idées, sur ce que disent, ce que font, ce qu'écrivent à cette époque-là les intellos. Que disent-ils ? Est-ce qu'il y a des contre-feux qui s'allument contre ce discours dominant, donc ?
C'est toujours la même chose, c'est que les contre-feux existent, mais sont tellement localisés qu'ils n'ont pas accès à l'espace public dominant de l'époque, qui lui cherche de quoi vendre, de quoi effectivement
divertir. Autrement dit, est-ce que dans ces années-là, quelqu'un parlait comme vous le faites aujourd'hui ?
Oui, il y a des contre-feux, mais c'est des contre-feux qui sont incompatibles avec les nouvelles logiques de l'espace public français, donc inaudibles.
Bah, on a également évoqué au début de l'émission Guy Hockenheim et son pamphlet « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmar au Rotary ».
Vous en êtes à deux.
Mais oui, non, mais
c'est le début d'une équipe.
La vérité, c'est que les critiques intellectuelles étaient relativement rares et qu'on ne les entendait pas beaucoup.
Médiatiques ?
Dans les médias, je crois que c'était encore pire parce qu'on... On entrait dans la période de privatisation de l'audiovisuel qui accélérait encore le rythme de ces émissions à la gloire de l'argent, même si il faut rappeler que Vive la crise est une émission qui a été diffusée par Antenne 2, c'est-à-dire par la télévision publique, mais on peut dire qu'à partir de 1984-85, des chaînes de Berlusconi et de la privatisation de TF1, et en plus, avec le retour de la droite en 1986, ce discours de célébration de l'entreprise et du capitalisme sera absolument hégémonique.
Il y a un look vestimentaire de l'époque qui est le blazer croisé en haut pour les hommes et le jean. On porte le blue jean, symbole des années 70, mettons. Et en haut, on est habillé comme il faut pour être un présentateur de télé.
En Grande-Bretagne, le gouvernement de Madame Thatcher, comme les syndicats, sont mis à rude épreuve par la grève des mineurs qui dure maintenant depuis 6 mois. Philippe Arroy.
Ce soir-là, au cours d'une soirée de charité, le numéro 2 des mineurs gallois, Terry Thomas, a mis en cause celle qui pourtant veut rester en dehors du conflit, Margaret Thatcher. C'est elle qui tire les ficelles, a-t-il expliqué. Ce qu'elle veut surtout, c'est briser les syndicats. Et cela passe par l'affaiblissement du plus puissant d'entre eux, celui des mineurs. C'est pourquoi, ajoute-t-il, les mineurs ne céderont pas. Et comme Margaret Thatcher n'est pas du genre à céder non plus, le jeu est bloqué.
C'est à Elsham, une petite ville minière en grève près de Douvres, qu'Henri Krasucki a remis un chèque de 700 000 francs au syndicat des mineurs britanniques, en grève depuis plus de 7 mois.
Nous savons ce que c'est que la solidarité, mais ici c'est nous qui la portons à des hommes et à des femmes qui combattent depuis 8 mois. C'est dur. Ils nous ont accueillis avec une telle gentillesse et avec une telle simplicité, comme entre camarades, comme si on s'était toujours connus. C'est très bien comme ça.
Serge Limi.
Il faut rappeler que les mineurs avaient précédemment fait céder les conservateurs britanniques en 1974, que c'était le cœur de la résistance ouvrière. Et que Margaret Thatcher avait toujours voulu faire un exemple. On pense même qu'elle a provoqué ce conflit à un moment où elle pensait que les réserves de charbon au Royaume-Uni étaient importantes, afin de casser ce syndicat, qui par ailleurs était un syndicat particulièrement militant, qui n'était pas du tout sur une ligne réformiste, sociale-libérale, mais qui était un syndicat plutôt rouge. Donc elle avait envie de le casser, et elle avait sans doute en tête le précédent américain, puisque l'un des premiers actes de Ronald Reagan quand il était arrivé au pouvoir avait été de casser la grève des contrôleurs aériens et de donner en quelque sorte ainsi le signal à toutes les directions d'entreprise du pays qu'il était possible de s'en prendre aux syndicats et que les directions d'entreprise dans leur combat contre les ouvriers. Alors il faut voir que c'est évidemment important pour les conservateurs, mais que la défaite des mineurs aura aussi des conséquences à l'intérieur de la gauche, puisqu'elle va casser un pôle de résistance à un recentrage social-libéral, et qu'une partie du mouvement travailliste sera tout à fait satisfait de voir que les mineurs ont été vaincus, qu'ils utiliseront cette défaite pour aller plus loin dans la voie de ce qui deviendra quelques années plus tard le blairisme.
Le 15 juin 1985, nous sommes en direct sur la place de la Concorde.
Nous allons rejoindre maintenant la fête en musique donnée sur la place de la Concorde à l'initiative de SOS Racisme, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont répondu à cet appel antiraciste, quelque part sur la place de la Concorde, Jean-Jacques Dutronc.
Regarde l'obélisque là, planté comme un énorme... Ça fait pas très catholique, hein. C'est pas français, ça.
Bernard-Henri Lévy, il y a eu quelques problèmes, notamment avec quelques personnalités juives qui étaient au sein du mouvement.
Il y a eu en effet des minuscules et je crois assez misérables querelles de boutique venant de telle ou telle organisation. Mais je ne pense pas que ce soit très important. L'événement ce soir, c'est qu'il y a 400 000 jeunes gens qui sont ici sur la place de la Concorde, qui se sont rassemblés sur des mots d'ordre de refus de la haine, de joie, d'antiracisme. Et ça, je crois que c'est un événement sans précédent en France. On peut dire que l'antiracisme est en train de devenir majoritaire en France. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois encore, lorsque nous étions quelques-uns à dire que les verrous étaient en train de sauter, que les tabous étaient levés, que le racisme était en train de déferler. On n'en était pas là. Et ça, c'est grâce à Harlem et grâce à Touche pas mon.
Jean-Jacques,
oui,
une fête, une manifestation liée au racisme a toujours quelque chose de politique, qu'on le veuille ou non.
C'est un peu vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie?
Non, je n'y crois pas. Je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Ce mouvement antiraciste est né avec un mot d'ordre éthique, moral.
Voilà, le racisme et l'antiracisme, ce n'est pas politique. On entend, on voit qu'une fois de plus, BHL est à l'avant-garde de la lutte contre la haine et contre le mal. François Cuisset.
Alors effectivement, BHL parle de Harlem, c'est l'époque, c'est un peu un détail idiot, mais pas inintéressant. C'est l'époque où tout le monde s'appelle par son prénom. Je me souviens des souvenirs d'Harlem Désir qui raconte effectivement ce grand concert de la place de la Concorde en parlant de Bernard, de Marek, d'un autre Bernard qui est
Kouchner. C'est les potes. C'est les potes.
C'est les potes. Donc effectivement, c'est le... Mais au-delà de l'anecdote, il y a quand même une double lecture, faut pas être caricatural. À l'époque, c'était effectivement un événement médiatique, mais un événement moral aussi, parce qu'on est quand même en pleine période d'attentats racistes et de Dupont la joie et de montée de Le Pen. Cela dit, on voit bien que la réponse à la montée du racisme, eh ben, c'est la musique, c'est les médias, c'est des concerts, c'est effectivement le soutien de quelques intellectuels officiels. C'est la publicité aussi, puisque le coup de génie cette même année de SOS Racisme qui va lancer l'association, c'est le badge Touche pas à mon pote. C'est-à-dire le concert de la place de la Concorde est organisé pour le lancement du badge. Il s'en vendra, je crois, 1 million dans les jours qui suivent. On aura même, c'est un détail révélateur, le jour du concert, le journal télévisé interview un publicitaire alors célèbre, mais qui n'est pas encore un homme de télévision, qui s'appelle Thierry Ardisson, et qui fait effectivement l'éloge de ce coup de marketing, il emploie l'expression, en disant que c'est vraiment une leçon pour les publicitaires ce que vient de faire SOS Racisme. Voilà, si vous voulez, ces références-là, cette logique-là, cette tactique-là, à court terme, très bonne chose, dans cette France effectivement un peu vieillie, cocardière et raciste. À long terme, échec total, dépolitisation complète du combat antiraciste, remplacé par une morale bien pensante et par effectivement une récupération politique et par certaines élites parisiennes. Hein, je veux dire, on voit beaucoup plus Globe ou Bernard-Henri Lévy derrière SOS Racisme que les vraies victimes du racisme dans les cités, quoi.
Oui, je crois que François Cusset montre ça très bien dans son livre. La bien-pensance antiraciste va permettre à la gauche bourgeoise de camoufler sous les traits de l'intransigeance antiraciste qu'elle est de moins en moins de gauche. Et ce discours sur l'événement médiatique qui transforme la France du jour au lendemain, c'est fini le racisme, etc. On l'a entendu je ne sais combien de fois depuis. On l'a entendu au moment du défilé de Goud pour le bicentenaire de la Révolution française 89. En 89. On l'a entendu au moment de la Coupe du Monde de football autour du discours sur la France blanc-black-beurre. Et puis on s'est aperçu que ça n'avait pas vraiment bouleversé la société autant que l'imaginait les publicitaires et les promoteurs de ce genre d'événements.
Cette même année 85, donc la musique est la dernière arme, la seule arme contre le racisme. Elle est aussi la seule arme contre la fin dans le monde. C'est l'année de We Are the World, donc où toutes les stars de la pop mondiale sont réunies contre la famine en Éthiopie. Ça va effectivement influencer les Français, puisqu'on aura derrière l'album fait pour les Restos du Cœur de Coluche sur le même principe. Donc effectivement, la musique, ou en tout cas cette logique spectaculaire et médiatique, est la seule réponse qu'on trouve quand la politique a disparu.
C'était le troisième épisode de la série La décennie, le cauchemar des années 1980, préparé par Renaud Lambert, diffusé une première fois en avril 2007. Une nouvelle version de cette série vous est proposée par l'équipe de Là-bas si j'y suis toute la semaine. Merci à François Cusset, Frédéric Lordon et Serge Halimi. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Guillaume Roux et Florent Beauvallet. À la réalisation, Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer, assistante Marina Touyez, chef du répondeur, Grégory Salomonovitch. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, le 01 56 40 37 37.